Le journal, Olivier Bénis, bonjour.
Bonjour à tous. Dans un instant, on ira sur la route du Tour, un tour qui a un invité un peu particulier cette année, Emmanuel Macron. Le président a profité de cette 14e étape dans les Pyrénées pour discuter avec des habitants, notamment de la future réforme des retraites, vous l'entendrez. Nous serons aussi en direct avec Xavier Monferrand pour faire le point sur l'étape du jour vers le col du Tourmalet. Direction aussi l'Algérie, grande gagnante de la CAN hier soir. Une victoire dans un contexte tendu sur place, puisque foot et politique sont très liés dans le pays. La CIMADE claque la porte d'un centre de rétention. L'association dénonce des traitements inhumains infligés aux migrants sur place et estime ne plus pouvoir les aider dans de bonnes conditions. Montée de tensions aussi en Iran autour d'un navire britannique arraisonné par les gardiens de la Révolution. On analysera cet incident diplomatique depuis Téhéran et depuis Londres. Enfin, il y a tout juste 50 ans, trois Américains arrivaient tranquillement à leur destination, la Lune, un événement planétaire célébré tout particulièrement aux États-Unis.
France Inter.
Le sport, c'est parfois une bonne occasion de faire de la politique et ce n'est pas le Tour de France qui va nous prouver le contraire. Pour la 14e étape, aujourd'hui, les coureurs ont un invité de choix, Emmanuel Macron, qui va les suivre jusqu'au Tourmalet, pas en vélo, rassurez-vous. Après un bain de foule hier à Pau, un autre ce matin à Bagnères-de-Bigorre, l'occasion d'évoquer devant les caméras qui le suivent la future réforme des retraites, gros chantier de la majorité à la rentrée. Emmanuel Macron.
Le système de retraite, il protège aujourd'hui très bien les gens qui sont dans un statut à vie. Quand vous êtes dans un statut avec un régime de retraite qu'on appelle les régimes spéciaux, c'est très avantageux. C'est pas la faute des gens qui y sont, hein. Et donc il faut qu'on fasse progressivement changer les choses, mais ça va prendre une génération. Pour avoir un système qui soit équivalent, qui soit toujours par répartition, mais plus juste et transparent. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont plus confiance dans le système. Sur ce sujet, c'est normal qu'il y ait une crainte, parce que ça touche à un sujet extrêmement sensible dans notre pays. Là, il y a un rapport qui a été remis, qui est le fruit de tout ce travail, qui crée la transparence, qui explique que ce qu'on veut rebâtir, c'est un contrat avec la nation. Secteur par secteur, catégorie par catégorie. Parce que, par exemple, pour les enseignants, pour les aides-soignants, ça ira au rythme où on peut faire avancer les choses. Et donc, il faut d'abord ce temps de débat, maintenant, qui va s'ouvrir à la rentrée. Et puis ensuite, on conduira, sur la base de ces débats, la réforme.
Le président de la République, Emmanuel Macron, qui surfe aussi sur la victoire hier, que dis-je, l'exploit d'un Français, Julien Alaphilippe, qui porte le maillot jaune depuis plus d'une semaine. Bonjour Xavier Monferrand.
Bonjour Olivier.
Alors forcément, après une journée pareille, l'étape suivante qui va s'élancer tout à l'heure commence dans une ambiance bien particulière.
Oh oui, évidemment, il n'y a que Dieu pour Julien Alaphilippe, vous l'avez dit, qui a réalisé un exploit hier. Et aujourd'hui, on va voir si cet exploit il se concrétise. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'heure de la grande explication entre leaders. Et notamment pour Julien, avec ses rivaux, particulièrement les Britanniques d'Ineos et leur leader, Geraint Thomas, le tenant du titre. On les attend sur les pentes du géant des Pyrénées, le Tourmalet, qui est au rendez-vous aujourd'hui avec une arrivée au sommet. C'est la troisième fois seulement dans le Tour que ça arrive au sommet du Tourmalet. C'est le col le plus emprunté de l'histoire du Tour, mais c'est surtout, c'est rare que les coureurs arrivent au sommet, donc il va y avoir certainement une explication des tentatives d'attaque de tous les leaders, peut-être Romain Bardet, peut-être Thomas Pinot, Thibaut Pinot, qui vont tenter d'attaquer sur les pentes du Tourmalet. Mais avant cela, il y a un autre col, évidemment, il y a le col du Soulor qu'il va falloir passer. Bref, c'est une grosse étape, mais une étape de 117 km courte, ramassée, mais il y aura une explication.
Merci beaucoup Xavier Monferrand avec les moyens techniques de Jean-André Giannichini. Vive à l'Algérie donc. Les Fennecs ont remporté hier soir leur deuxième titre de Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal 1-0. Une victoire qui a entraîné des scènes de liesse un peu partout en Égypte où le match se jouait, en Algérie et même en France. Vous pouvez voir les images sur franceinter.fr. Une victoire aussi très symbolique parce que le pays vit une période politiquement trouble. Le pouvoir algérien avait affrété une trentaine de vols pour envoyer des supporters au Caire. Il misait sur ce match pour jouer la carte de la réconciliation nationale. Mais pour Karim Amelal, écrivain et enseignant à Sciences Po, ce n'est pas une franche réussite.
Le pouvoir algérien a toujours utilisé le football comme un dérivatif et comme aussi un moyen de se légitimer ou de se relégitimer. Je crois que c'est ce qui s'est passé effectivement hier avec des moyens tout à fait colossaux. C'est une tactique qui tombe à pas là parce qu'en réalité, le mouvement du 22 février qui est né, comme on le sait, en partie dans les tribunes des stades en Algérie, et bien résonne dans cette victoire. Et en fait, cette victoire vient d'une certaine manière confirmer pour les Algériens ou aux Algériens qu'ils sont en train de revenir dans l'histoire, de refaire l'histoire. Et finalement, ça marque un petit peu une victoire qui est évidemment footballistique, qui est sportive, mais qui est aussi quelque part politique, parce que le match qui s'est joué hier au Caire, eh bien, fait écho à un autre match, qui est un match politique, celui-là. Ça redonne espoir aux Algériens, donc je suis pas sûr que cette tactique-là, utilisée par le pouvoir, pour la énième fois, ait vraiment fonctionné. Je pense même que c'est un peu contre-productif pour lui.
Propos recueilli par notre consoeur Olivia Ferrandi sur France Info. Notez que l'équipe algérienne revient en ce moment du Caire avec sa deuxième étoile. Les joueurs sont attendus à 15h en Algérie. Une cérémonie officielle et populaire est prévue. Et puis ce match, on le disait, a aussi été suivi avec passion en France, parfois un peu trop de passion. Au total, le ministère de l'Intérieur annonce 198 interpellations dans tout le pays, dont 102 à Paris. Près de 2500 policiers et 300 pompiers étaient mobilisés dans la capitale pour atténuer d'éventuels débordements. Quel niveau de violence faut-il pour que même une association humanitaire jette l'éponge ? En tout cas, ce seuil a été atteint pour la CIMAD, qui a claqué la porte du centre de rétention administrative du Ménil-Amelot, en Seine-et-Marne, pour dénoncer une escalade de la violence. Les autorités assurent qu'elles ne sont pas avérées, mais les personnels de la CIMAD, eux, évoquent une situation désastreuse et estiment qu'ils ne peuvent plus exercer leur mission dans de bonnes conditions. Christophe Deltombe, leur président.
On n'a jamais atteint un tel niveau de violence au Ménil-Amelot. La semaine dernière, des événements extrêmement graves se sont produits, à savoir trois tentatives de suicide, dont une assez démonstrative, puisque c'est une personne retenue qui est montée sur une grille et qui a menacé de se pendre avec un barbelé, ce qui est quand même très très choquant. Placée en cellule d'isolement, une personne qui fait la grève de la faim, c'est vraiment une violence. Or, c'est ce qui s'est produit, par exemple, également la semaine dernière. Bref, il y a une politique du tout enfermement qui est, je peux la qualifier, d'inhumaine. La solution policière, la solution de répression n'est pas la réponse. Il y a d'autres solutions à adopter et dans ces conditions, faire de l'accompagnement juridique alors qu'en fait on est dans une telle ambiance devient quasiment impossible.
Deux marches aujourd'hui, toujours sur fond de dénonciation des violences policières avec deux histoires qui continuent à mobiliser. Celle d'Adama Traoré, d'abord, une manifestation est organisée à 14h30 à Beaumont-sur-Oise, 3 ans après la mort du jeune homme. L'autre histoire, c'est celle de Steve Maya Canisso, disparu dans la Loire en marge d'une opération de police dans la nuit du 21 au 22 juin à Nantes. Un rassemblement y est prévu, cette fois à 15h30, là aussi pour exiger des réponses. Et puis, attention aux rumeurs sur Internet, surtout quand elles concernent des données scientifiques. La préfecture de Paris a catégoriquement démenti ce matin tout risque pour la santé publique si vous consommez de l'eau potable dans la capitale. Depuis hier, des messages sur les réseaux sociaux évoquent la présence de tritium, un élément radioactif, dans l'eau. Alors oui, il y en a bien, à un niveau de 100 becquerels par litre, soit 100 fois moins que la valeur à ne pas dépasser selon l'OMS. Vous pouvez donc continuer à vous hydrater sans risque.
France Inter, le journal de 13h. Olivier Bénis.
Une nouvelle étincelle dans une région déjà explosive. Un pétrolier britannique a été arraisonné par la marine iranienne des gardiens de la révolution dans le détroit d'Ormuz à l'entrée du golfe Persique. Selon Donald Trump, c'est là notamment qu'un drone iranien avait été détruit hier après s'être approché trop près d'un navire américain. Un nouvel accrochage qui rend tout le monde nerveux, Siavosh Ghazi.
Téhéran n'a pas encore réagi à la demande de Londres de libérer le pétrolier britannique. Un responsable iranien a affirmé en revanche que le pétrolier britannique avait percuté un bateau de pêche et n'avait pas répondu à ses appels. Et c'est seulement ensuite qu'il a été arraisonné par la marine des gardiens de la révolution avant d'être emmené dans le port de Bandar Abbas pour qu'il y ait une enquête sur l'incident. Les gardiens de la révolution ont affirmé que le pétrolier britannique avait eu un comportement dangereux pour la navigation et n'avait pas respecté les règles internationales maritimes. La marine iranienne a d'ailleurs contrôlé au même moment un autre pétrolier britannique dans la même région pour non-respect des règles maritimes, mais il a été relâché. Il y a quelques jours, le guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, avait déclaré que l'arraisonnement d'un pétrolier iranien par les Britanniques le 4 juillet dernier à Gibraltar ne restera pas sans réponse. D'ailleurs, ces derniers mois, l'Ayatollah Khamenei et des responsables politiques et militaires iraniens ont affirmé à de nombreuses reprises que l'Iran rendra coup pour coup à toute action hostile. Téhéran, Siavosh Ghazi, RFI pour France Inter.
Alors évidemment, cet incident entraîne aussi des sueurs froides à Londres. Cela met surtout en difficulté un homme, Jeremy Hunt, ministre des Affaires étrangères britannique et candidat au poste de Premier ministre, qui tente de faire bonne figure, Antoine Gignot.
Pour le ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, c'est un exercice d'équilibrisme. Il doit donner une image de fermeté tout en évitant d'envenimer la situation. Le problème doit être résolu de toute urgence, dit-il, sans utiliser la force. Je cherche une solution diplomatique. Mais pour l'instant, les contacts entre les deux pays sont au point mort et la tentative britannique de créer une grande coalition avec les États-Unis pour faire pression sur le gouvernement iranien n'a pas abouti. Conséquence, les questions aux allures de critiques se multiplient dans la presse. Lorsqu'ils ont décidé d'arrêter un pétrolier iranien le 4 juillet à Gibraltar, les ministres ont-ils sous-estimé les conséquences ? Demande la BBC. Les Iraniens avaient prévenu de possibles représailles, explique le Télégraphe. Aurait-il fallu renforcer la flotte militaire dans le Golfe ? Sur Twitter, Jeremy Hunt répond laconiquement « Je garantirai la sécurité de nos navires », mais en parallèle, le gouvernement recommande aux bateaux britanniques d'éviter le détroit d'Ormuz. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Et notez que la France exprime officiellement sa grande préoccupation sur cette affaire. On part bien plus loin et bien plus haut à présent. Une petite escapade sur la Lune. Il y a tout juste 50 ans aujourd'hui, 3 Américains y posaient le pied. Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Que vous ayez vécu cet instant magique en direct ou que vous soyez né bien des années après, les images sont forcément imprimées dans un coin de votre mémoire, comme dans celle de nombreux Américains qui fêtent aujourd'hui ce 50e anniversaire, notamment à New York où s'est rendu Loïc Loury.
21h56, heure de Houston, le 20 juillet 1969. Shirley n'était pas à Times Square, mais devant sa petite télé en noir et blanc. Comme des centaines de millions de personnes à travers le monde, elle a assisté fébrile aux premiers pas de l'homme sur la Lune.
C'était quelque chose de vraiment génial, marcher sur la Lune. Pour le monde entier, pas juste les Américains. Personne d'autre n'est allé sur la Lune. J'aimerais bien revoir ça une fois.
50 ans plus tard, toujours à Times Square, quelques publicités sur les écrans géants annoncent le cinquantenaire d'Apollo 11 et des premiers pas de Neil Armstrong dans la poussière lunaire. Une date que Mike connaît très bien puisqu'il est né un 20 juillet.
C'est un peu un honneur que l'homme ait atterri sur la Lune pour mon anniversaire. Je pense que c'est cool, c'est énorme. C'est un jour à retenir, alors pouce en l'air. Et on n'y a pas été depuis longtemps. On devrait y retourner.
Et justement, les États-Unis espèrent y retourner pour 2024 avant de se projeter vers Mars. Javier, un Mexicain américain, vient du Connecticut. Petite fierté puisque des ingénieurs de cet état avaient contribué au succès d'Apollo 11. Alors la planète rouge, il est partant.
Allez, ce serait incroyable. C'est un autre monde. Imaginez juste des Mexicains sur Mars. Ce serait sympa, non ?
New York, Loïc Loury, France Inter.
Et notez que si vous voulez reproduire un peu cette aventure d'Apollo 11 vers la Lune, Julien Baldacchino a rassemblé pour vous les chansons qu'ont écoutées les astronautes américains sur cassette audio lors de leur voyage en 1969. C'est à écouter sur franceinter.fr. Sur Terre, l'Etna, lui, s'est réveillé la nuit dernière. Le plus important volcan encore en activité en Europe a connu quelques explosions et coulées de lave dans la zone désertique de son sommet. L'Etna est dans une phase d'activité depuis 6 jours. Aujourd'hui, sa dernière éruption massive remonte à 2009. Il y a encore de beaux moments d'émotion à aller chercher du côté d'Avignon aussi. Même si le festival vit son dernier week-end puisqu'il se termine mardi prochain. Illustration avec un spectacle d'un metteur en scène congolais, Faustin Linyukela, qui s'appelle Histoire du théâtre 2. Il plonge dans la mémoire du Ballet National du Zaïre, future République démocratique du Congo. Un lieu de culture créé par un dictateur, Mobutu, Stéphane Capron.
Lorsqu'il crée le Ballet National du Zaïre en 1974, Mobutu veut asseoir son prestige. La troupe réalise une tournée mondiale. Elle est un des éléments fondateurs de l'émancipation de la colonisation, une façon d'unifier par la culture les 450 tribus du pays. Faustin Linyukela découvre dans les années 80 ce ballet à la télévision. Près de 40 ans après, il a demandé à 3 danseurs de la compagnie de remonter sur scène, une façon pour lui de fouiller dans ses racines.
C'est une pièce qui s'interroge sur la naissance de la nation. Qu'est-ce que ça veut dire de nous dire Congolais ? Comment, à travers les témoins, mais ceux qui portent cette histoire dans leur corps, mais qui ont toujours été, pour le grand public, finalement anonymes, c'est comment m'appuyer sur ces corps. Et c'est peut-être dans cet espace-là que je pourrais m'insérer et inscrire ma propre histoire.
Les 3 anciens du Ballet National du Zaïre replongent avec nostalgie dans le passé de leur compagnie. La création du spectacle a été semée d'embûches. Il a été difficile d'obtenir des visas pour que les danseurs viennent en Europe. Mais le résultat est magique. C'est l'un des plus beaux moments de ce festival d'Avignon.
Histoire du théâtre 2, c'est à voir donc au Festival d'Avignon jusqu'au 23 juillet. On se tourne à présent vers la situation sur les routes de France avec vous, Mélanie Juvet. Ça coince un peu sur l'A7 dans la vallée du Rhône.
Exactement, et le trafic est compliqué dès la sortie de Lyon en direction Orange, avant l'arrivée de Valence. Vous êtes dans les bouchons après Tournon-sur-Rhône. Comptez là un quart d'heure pour parcourir 7 petits kilomètres. Une fois la sortie de Valence, c'est naturellement compliqué jusqu'à Montélimar. Vous rajoutez presque une heure et demie de votre trajet habituel. Dans l'autre sens, pour les retours, c'est également chargé. Là, 15 minutes de plus sur votre parcours. Sur la 9, en direction de l'Espagne, il faut prendre aussi son mal en patience. Comptez le double de temps entre Orange et Narbonne, soit 2h30. Et un petit mot de la 10, où c'est bien chargé également pour accéder à Orléans, et ce, avant la jonction avec l'A71.
Mélanie Juvet, OPC Mobilité de Radio France. Merci.